Michel Jarton, vous êtes né au Brésil.
Alors j'avais 1 an quand je suis allée au Brésil. Et j'y suis restée 12 ans, mes 12 premières années.
Ce sont des années qui marquent ?
Énormément. Parce que peut-être à cause du Brésil, où la nature est extrêmement forte, violente, et les personnes extraordinairement humaines et fraternelles. J'ai l'impression d'avoir vécu en technicolor une fraternité...
Que vous avez jamais retrouvée après ?
Que je n'ai jamais retrouvée avec les mêmes couleurs. Arrivant en Europe à 12 ans, c'est vrai que j'ai vu plutôt en noir et blanc les rencontres parisiennes, mais aussi la difficulté à communiquer. On ne dit pas bonjour dans la rue à n'importe qui.
Est-ce que c'est le Brésil, Michel Jarton, qui vous a appris à ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez ?
Peut-être, en tout cas, en est-ce un élément, parce que j'ai une éducation très diverse, au sens où j'ai été dans des écoles successivement brésiliennes, anglaises, françaises. Mes parents ont veillé à ce que nous soyons très encadrés et en même temps très libres et en même temps très, très, très ancrés dans la culture qui était autour de nous. L'écart était tel, donc, entre une communauté européenne et la communauté brésilienne, qu'il fallait vraiment comme avoir une troisième dimension.
Et cette troisième dimension, ça a été plutôt dans l'ordre du savoir, de la connaissance.
Oui, je pense. Pour moi, ça s'est traduit comme cela. J'avais une facilité à apprendre.
Vous êtes donc juriste, vous êtes théologienne en droit canon, vous avez fait aussi l'école du Louvre, et puis quoi d'autre encore ?
De l'histoire.
Et vous parlez plusieurs langues, bien sûr, couramment.
Voilà, je fais l'école des langues eaux.
Voilà. Et dans ce parcours, qui est un véritable arc-en-ciel, on peut le dire, dans ce parcours, il y a des personnes qui ont été un peu des flèches, dans le sens qu'elles vous ont appris à aller plus loin. Peut-être qu'elles vous ont révélé aussi votre parole. Je pense à Don Elder Camara, je pense au cardinal Lustiger.
Oui, c'est vrai, je pense que c'est une grâce de rencontrer des maîtres. Le cardinal Lustiger et Don Elder ont été deux figures qui m'ont marqué, effectivement. Deux témoins, dans l'ordre du dire, du faire et du témoignage. Ce témoignage, c'est un peu, voilà, ce qui est du domaine de l'être, est un peu l'art du chrétien qui essaye, dans le domaine du savoir, enfin donc, qui est celui dont nous parlions. Il s'agit d'être un peu fidèle à ce logos qui est cet alpha et cet oméga, et rapprocher le faire du dire. Dieu seul dit et sait. Et on met toute notre vie d'homme à être ce qu'on dit. Et
vous avez rencontré Don Elder Camara ?
Je l'ai rencontré, j'étais une toute petite fille. Et puis je l'ai rencontré de nouveau à Paris, quand il était venu rencontrer les communautés portugaises. On lui avait dit que les Portugais, qui étaient parmi les premiers immigrants en France, devenaient presque une caste. Ils ne faisaient pas n'importe quoi, les Portugais. Ils étaient maçons. Et il était venu en disant, n'oubliez pas que vous avez été des premiers immigrés. Ne soyez pas maintenant avec eux comme ont été les Égyptiens avec leurs esclaves. C'était très frappant de voir cet homme, justement, qui rappelait que les progrès que l'on fait doivent toujours être remis dans une fraternité de base.
Et vous avez été aussi, Michel Jarton, dans des domaines très épineux.
Voilà, la question du Carmel d'Auschwitz. Oui, ça a été vraiment une expérience ponctuelle qui a duré presque 15 ans. Il s'agissait de dire à une communauté priante, une communauté qui venait là pour expier des crimes qui avaient été commis sur son sol, eh bien qu'il valait mieux qu'elle déménage de quelques centaines de mètres, puisque ce sol n'était pas considéré de la même façon par les chrétiens et par les juifs, à savoir donc le camp d'extermination d'Auschwitz. Pour les sœurs carmélites, le gouvernement, le communiste alors, avait proposé donc un petit terrain sur le camp d'Auschwitz qui autrefois rassemblait les restes, donc les chaussures, les cheveux de ceux qu'on envoyait dans les chambres à gaz. Et pour les sœurs, c'était être au plus près du malheur, donc elles portaient ça en elles. Le chrétien a cette sorte d'incarnation, alors que pour le juif, c'était un véritable blasphème. Nul ne peut être là où a été un tel malheur. Dieu seul est capable de pardonner. Et sur ce point, se sont cristallisés beaucoup de malentendus, aiguillonnés par des intérêts autres que religieux, qui étaient plutôt politiques, donc on s'est servi un peu. Voilà. Le pape Jean-Paul II a demandé qu'il y eût une petite commission, et ça a été un extraordinaire laboratoire de réflexion entre ces hommes, jusqu'à produire un texte commun. Le premier texte, disait Théo Klein avec humour, mais fierté aussi, le premier texte où dans l'histoire, l'Église est à égalité avec un autre partenaire pour signer un texte. Donc cette fameuse déclaration « Souviens-toi, Zahor ». Donc l'affaire s'est dépassionnée, ça a été aussi une occasion pour tout le monde peut-être de connaître un petit peu plus la sensibilité de l'autre. Elie Wiesel avait un mot que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois, je pense, vrai pour l'historien, pour le savant, pour le journaliste. Là, il disait « L'information doit se transformer en connaissance, la connaissance en sensibilité, la sensibilité en expérience et en engagement ». Ensuite, on m'a demandé donc d'être observateur au Consistoire central de France. Ça consiste à écouter beaucoup. Et puis peut-être à traduire dans des mots non diplomatiques, plus simples, les documents des uns pour les autres et des autres pour les uns. Parce que nos langages sont de telles barrières, il suffit souvent d'une traduction pour que les cœurs s'ouvrent. Il y a une fenêtre entre le cœur et c'est tellement plus facile de dire directement. Et surtout, je pense, d'être conscient et content de nos différences. Je définirais pour moi le dialogue comme cela. Oublier nos ressemblances. Bon, nous avons tous ce patrimoine commun. Par contre, faire connaître nos différences, faire respecter nos différences. Et c'est fantastique. Quand l'autre sent cela, parce que c'est là qu'est la vérité finalement. Puis c'est ça, l'arc-en-ciel, Dieu nous veut différents, chacun. Et ça a été une école d'émerveillement.
Vous avez fait 2 volumes, je crois, sur les lettres de Don Helder Camara.
Oui, alors voilà, les lettres de Don Helder au Concile. Les éditions du Cerf ont choisi 3 cardinaux, le cardinal de Lubac, le cardinal Congar et donc l'évêque Don Helder, qui avaient écrit pendant les sessions du Concile. Et Don Helder, extraordinairement vivant, a écrit chaque jour, ou plutôt chaque nuit, parce qu'il écrivait la nuit, il dormait 3 heures par nuit, il priait énormément, il se réveillait, il s'asseyait même sur une chaise pour être sûr de pouvoir se réveiller pour prier, parce que c'était vraiment le moteur de sa vie. Il appelait ça ses veilles. Et pendant ses veilles, il racontait, quelques lignes, sa journée à sa petite famille de Recife, puisqu'il était archevêque de Recife et à ce moment-là, attendant en retour une réponse. Il disait « Je suis évêque pour eux et avec eux, et donc j'attends la parole que j'aurai au concile, ça sera la leur ». Alors on a 2 volumes extraordinaires de méditation, mais aussi de l'envers de ce qui s'est passé au concile. Par exemple, comment cette église d'Amérique latine est la seule église au monde à être délibérative et pas seulement consultative. Et le pape Paul VI avait souhaité qu'il y eût plus d'autonomie dans les continents. Et immédiatement, le petit Don Helder a vu l'extraordinaire productivité possible de cela, et il est allé voir tout de suite le pape Paul VI, accompagné du cardinal Smenas, en disant « Voilà, eh bien, c'est formidable ça, nous sommes d'accord, nous avons donc en puissance, nous avons une conférence épiscopale qui peut remplir cela », et le pape a signé. Ce qui fait que la conférence épiscopale latino-américaine est la seule à pouvoir avoir des Medellín, des Puebla, des Saint-Domingue, des Aparecida. Elle a des petits conciles comme l'avaient les églises primitives.
Vous disiez tout à l'heure que parmi tout ce qui fait un peu le lien de toutes vos connaissances, c'est l'histoire. Vous avez fini un livre sur l'histoire.
C'est l'histoire de comment expliquer l'église à mes amis. Et mon souci, c'était de montrer cet extraordinaire fil rouge et cette extraordinaire puissance d'invention et d'incarnation de l'église au cours des siècles. Ce génie d'être là au bon moment, dans les heures de lumière et dans les grandes nuits noires. C'est vraiment l'incarnation. Ces moments où l'esprit et la parole sont liés, c'est fantastique, ça fait. Ça, quelque chose se produit. Et c'est ça que retient l'historien, alors que nous voyons plutôt les événements. Mais là, c'est ce fil rouge de vie. C'est un fil merveilleux pour celui qui regarde. À chaque fois, il a l'impression qu'il va trouver quelque chose de nouveau. Effectivement, il trouve. Et l'autre souci, c'était de donner aux catholiques, qui ignore souvent cela, un moyen structurel, plus institutionnel. Moi, j'aime beaucoup l'institution, en ce sens que je crois qu'on peut être très libre. C'est comme la danseuse, quand elle a une colonne vertébrale extrêmement forte, elle peut faire n'importe quoi. Et c'est cette institution qui, au cours des temps, s'est transformée. Ça aussi, c'est un émerveillement fantastique.
Est-ce qu'on peut dire, pour terminer, Michel Jarton, que votre souci, c'est le souci de la parole juste pour que l'incarnation de la paix se réalise de plus en plus en plus au milieu des hommes ?
Oui, et en même temps, j'aimerais reprendre un peu cette image du psaume 84, ces quatre parois. Il faut la justice, il faut la paix, il faut l'amour et il faut la vérité. Où la vérité peut-être germe quand les trois autres sont réunis. Un peu plus de justice, un peu plus de paix, un peu plus de vérité, un peu plus d'amour. Essayez d'écouter, de rassembler ces petites étincelles qui partout germent avec cela. Un dicton indien dit cela. Il faut se baisser assez bas pour écouter le vent de l'esprit qui souffle dans la grande plaine.